Alors, je vais vous parler ce soir des rites funéraires à Wallis. Il est à peu près admis que l'anthropologie est une forme de détour que l'on prend pour se regarder et se comprendre soi-même. Si vous avez fait appel ce soir à une anthropologue pour vous parler de la mort, vous devez donc vous attendre à ce que mon exposé évoque, à travers des pratiques et des représentations qui nous sont étrangères, une expérience universelle et pour autant particulière et intime à chacun de nous. Selon Edgar Morin, la conscience de la mort et l'apparition corrélative des rites funéraires sont ce qui, dans le développement de notre espèce, isole le genre homo du reste du règne animal. Il s'agit là, en quelque sorte, de l'acte fondateur de la culture, d'une attestation rudimentaire mais tangible de l'activité psychologique, affective et sociale de l'homo sapiens. Par la suite, les sépultures n'ont cessé de témoigner de pratiques et de représentations toujours plus complexes et plus diversifiées, reflétant assez exactement, comme le montre magistralement Philippe Ariès en ce qui concerne notre propre société, l'évolution des mentalités, il faut entendre par là des représentations collectives, concernant la mort. Cette plongée dans le passé nous est rendue possible par l'étude des vestiges archéologiques ou historiques, qu'il s'agisse de monuments ou d'archives diverses. On voit alors qu'au cours des siècles, si représentations et pratiques se modifient et parfois se transforment radicalement, elle ne se détourne jamais de la question fondamentale qui occupe l'homo sapiens depuis au moins 40 000 ans, la question de son destin post-mortem. En ce qui nous concerne, en Occident, le destin est étroitement lié aux conceptions que nous avons développées de la personne humaine faite à l'image de Dieu, mais composée de deux principes substantiels, le corps, simple matière, c'est-à-dire de la poussière, et l'âme, dont le destin dépend de la grâce divine et où ça peut varier, du mérite montré tout au long de l'existence. Nous pensons donc communément, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens tout au moins, que notre survie dépend exclusivement de la relation que chaque individu entretient avec Dieu. Un autre type de survie, purement sociale, celle-là, existe bien à travers la postérité, qu'il s'agisse de descendance ou de monuments, comme l'explique Ariès, le souvenir donnant aux morts une forme d'existence, une prégnance dans la mémoire collective qui justifie parfois, sans vouloir leur ôter leur mérite, service et sacrifice. En tout état de cause, les morts sont pour nous des défunts, des disparus, des trépassés, des décédés. Ils nous quittent et nous laissent atterrés, désemparés. J'évoque là rapidement des généralités qui ne font pas justice aux croyances populaires qui, bien qu'empreintes de christianisme, voit dans les morts et dans les vivants une réalité autrement plus complexe que ce qui a été soutenu et transmis par les doctrines chrétiennes les plus orthodoxes. Car en fait, dans de nombreuses sociétés, et dans la nôtre tout autant, bien que nous ne soyons pas toujours conscients du fait, parler des morts, c'est parler des vivants, les uns et les autres se faisant exactement face de part et d'autre du miroir que constitue le décès. Aussi, il me semble que si notre compréhension de la mort est désormais si désespérante, hormis un hypothétique salut de l'âme, c'est que nos conceptions de la vie et de la personne se sont faites, en dépit des grands principes, peut-être à cause d'eux, que nous défendons, c'est-à-dire le respect de la vie et des droits de l'homme, quelque peu pauvres et sèches. C'est par le contraste que je voudrais soutenir et illustrer maintenant cette affirmation un peu provocante. Je n'aurai toutefois pas recours à notre histoire ou à de l'ethnographie rurale européenne, quoique j'y aurais certainement trouvé des ressources, mais à l'ethnographie d'une société lointaine que j'ai eu la chance de pouvoir longuement étudier et qui reste pour moi une source inépuisable d'exemples et d'enseignements. Il s'agit de la société polynésienne de Wallis. Partie constitutive de la nation française, Wallis et Futuna sont un tome, un territoire d'outre-mer, profondément catholique, mais par ailleurs fier de ses particularités. La société wallisienne est une société polynésienne qui a conservé à sa tête une chefferie dont le roi est à la fois l'apex et le centre. La population jouit d'un statut légal de droit particulier, de telle sorte que les Wallisiens sont responsables de leurs actes devant la chefferie et non devant la nation ou l'État français. Bien que la jeunesse y parle couramment français, la langue vernaculaire reste la plus employée, c'est-à-dire la langue natale wallisienne, c'est une langue d'origine austronésienne. Et la population y a conservé avec fierté les coutumes du pays, Le mot coutume devant s'entendre ici comme un ensemble de règles et de pratiques que l'on considère comme héritées des ancêtres, mais qui sont en fait le fruit d'une permanente interprétation de la nouveauté à la lumière des expériences du passé. La coutume à Wallis intègre ainsi comme constitutive de l'identité même de la société un catholicisme fervent tout autant qu'une chefferie dont la configuration fut radicalement remaniée au XIXe siècle sous l'influence des missionnaires désireux d'instaurer dans ce petit archipel très isolé une stabilité politique favorable à leur œuvre évangélisatrice. Dans ce contexte un peu particulier, parfaitement étranger sous certains aspects, mais familier sous d'autres, certains constats s'imposent assez rapidement aux visiteurs métropolitains. L'un d'eux, que l'on rencontre ailleurs en Polynésie, prend l'aspect d'un paradoxe. Les morts sont partout. Ils occupent, pour le moins, tous les espaces qui ne sont pas spécifiquement dévolus à la vie sociale. Ils sont par exemple sur le rivage au bord de mer, sur la mer, dans la brousse, dans les jardins, les plantations. Ils rôdent la nuit sur les chemins, au cœur même des villages, une fois que les vivants sont calfeutrés dans les maisons. On les rencontre généralement aux alentours, dans la journée, s'entend, parce que la nuit, évidemment, circulent. On les rencontre généralement aux alentours des tombes anciennes dispersées sur les terres, dans les sources ou encore sur les chemins la nuit tombée. Que sont ces morts? Probablement des ancêtres païens, quand on interroge les Wallisiens à ce sujet, car depuis la christianisation, les morts vont au ciel, plus précisément leurs âmes vont au ciel, tandis que les corps, simples poussières, vont en terre. Bref, ces morts errants, généralement malveillants, paraîtrait comme une sorte de résidu que le christianisme n'a pu prendre en charge et qui, à défaut d'un traitement approprié, reste parmi les vivants. Si toutefois on regarde les choses d'un peu plus près, elles paraissent plus compliquées. Ces morts, en effet, entrent dans deux catégories, la catégorie des ancêtres et celle des démons. Les Wallisiens n'utilisent pas le terme démon, mais le néologisme témoniaux. Donc, ils entrent dans ces deux catégories, non du fait de leur nature ou de qualité spécifique, mais selon le point de vue d'où l'on se place pour les désigner. La classification est relative, les ancêtres des uns étant les démons des autres. Là, démons toujours avec des guillemets. Ainsi, les morts enterrés sur une terre sont-ils considérés comme des ancêtres et donc classés comme tels par les occupants légitimes de la terre auprès de qui ils demeurent? Et là, on utilise le même terme pour les vivants et les morts qui demeurent nofo, nonofo, sur une terre d'habitation. Pour les visiteurs, les intrus, voire les voleurs de terre, envers qui ils se montreront agressifs et dangereux, ces mêmes morts sont des démons qu'il faut redouter et éviter. À noter toutefois que dans tous les cas connus, la continuité généalogique a été rompue, les défunts étant enterrés dans de grands cimetières paroissiaux depuis 1855. De ces ancêtres, on ne sait donc rien, sinon le fait qu'ils sont bienveillants envers les descendants, bienveillance qui permet de les identifier précisément comme des ancêtres. Cependant, autre fait intéressant, on peut faire appel à des ancêtres parfaitement identifiés, ceux-là, qui sont enterrés au cimetière, pour protéger des droits sur des terres familiales. L'initiative revient dans ce cas aux vivants, qui se rendent au cimetière à la tombée du jour pour déposer une petite offrande sur la tombe et faire une prière. Dans ce cas, on le voit bien, ancêtres païens, ancêtres chrétiens se distinguent bien peu et leur champ d'action se recoupe. De notre point de vue, les morts à Wallis ne paraissent donc pas très catholiques. Ces soupçons ont été balayés par un prêtre wallisien, une figure du clergé local, qui est à la fois un peu devin, un peu thaumaturge. Il met toujours ses relations avec Dieu en avant, mais il rend de nombreux services à la population. Et il m'expliquait en français que demeure avec le corps des défunts, là je le cite, quelque chose de propre à la personne humaine. Un amour de l'humanité ou de la condition humaine qui forme le lien permanent entre l'âme et le corps. On voit ici comment l'idée d'une présence des morts auprès des vivants peut coexister avec le dogme catholique dans le discours même d'un prêtre. Dans son esprit, cela ne pose aucun problème, car il ne s'agit pas d'un être ni d'une partie d'être qui échapperait au destin normal de tout défunt chrétien, mais d'une relation entre le mort et les vivants. On sort ici d'une théorie des substances, d'un point de vue ontologique sur ces morts, pour ne considérer qu'un fait d'ordre relationnel. Les relations qui constituent la personne ne sont ni détruites ni complètement dispersées lors du décès et des funérailles. Certaines au moins de ces relations survivent, un lien à la sépulture qui les ancre dans la terre. Ce sont ces relations qui gardent aux morts une forme d'existence auprès des vivants, envers qui ils se montrent protecteurs quand il s'agit des descendants ou agressifs quand il s'agit des étrangers. Vous le voyez, en répondant ici à la question « Que sont les morts ?», on apprend aussi un peu de ce que sont les vivants. Afin d'approfondir cette question et de chercher à comprendre les formes d'existence propres aux morts et aux vivants, chose qu'il a été bien difficile de saisir pour l'ethnographe occidental que je suis, je vous propose de suivre le cheminement de mon analyse qui est passée par une étude approfondie des rites funéraires. Les rites funéraires wallisiens présentent une certaine complexité du fait de la superposition de rites catholiques à des rites d'origine très ancienne. Je me bornerai ici à une présentation rapide et à la description succincte des séquences particulièrement significatives. Au moment du décès, l'information de ce décès est transmise au roi, puis diffusée à la radio, tandis que les femmes s'occupent de la toilette funéraire. Affluent alors de toutes parts les relations du mort, il faut entendre par là ce qui serait rendu en anglais par le terme « relatives », hein, c'est-à-dire à la fois ses parents, amis, partenaires cérémoniels. Donc, affluent alors de toutes parts les relations du mort portant divers prestations, notamment des enveloppes de billets de banque, dont on dit qu'elles serviront à payer des messes pour le salut du mort et dont un décompte strict est tenu. Donc, les gens arrivent avec des biens féminins en général et des enveloppes qui contiennent de l'argent. Après la veillée funèbre, ponctué de prières et de lamentations, le défunt est porté à l'église pour une bénédiction religieuse. L'inhumation a ensuite lieu au cimetière sous la direction du roi, si le défunt était noble, sous la direction d'un chef coutumier, s'il ne l'était pas. Une retraite de 6 jours, appelée rosaire, est généralement organisée par les femmes proches et terminée par une fête où les porcs du mort sont tués et distribués aux personnes présentes lors des funérailles. De secondes funérailles peuvent avoir lieu généralement pour les morts de haut statut. Dans ce cas, une cérémonie du kava est organisée. Elle se prolonge par une grande distribution de vivres où la répartition de la viande de porc suit, contre toutes les habitudes, 2 principes différents. Le premier principe, qui est le principe généralement appliqué pour toutes sortes de distributions à Wallis, donc qui organise la distribution du kava, qui est une boisson cérémonielle qui est formellement distribuée. Donc ce premier principe organise la distribution du kava et il organise la distribution des premières parts de vivres suivant ce kava. C'est un principe qui suit la gradation en statut des membres de la chefferie, puis, normalement, du reste de la société. Alors, c'est le cas pour le kava. Pour la distribution des vivres, c'est le cas pour les seules premières parts. On distribue comme ça une dizaine de parts. Les parts les plus importantes sont distribuées en suivant la gradation du statut parmi les membres de la chefferie. Prend ensuite le relais un second principe qui n'est mis en œuvre que dans cette seule cérémonie-là. À savoir l'attribution de parts qui correspondent très exactement au montant de l'argent qui a été donné dans les enveloppes le jour où le défunt a été préparé pour sa toilette funéraire avant l'inhumation. À ces divers rituels s'ajoute Marc, et excusez-moi, j'insiste là-dessus parce que c'est signifiant par la suite. À ces divers rituels S'ajoutent marque et interdit de deuil, ce qu'on appelle poutou, dont l'étendue et la durée varient en fonction du statut du défunt. Ces interdits de deuil, qui concernent les danses, les divertissements du soir, la fabrication des tissus en écorce qui sont appelés tapas. Autrefois, il était aussi interdit d'allumer des feux le soir, de se rendre sur les îlots, de pêcher aux torches, à la lumière des torches. Bref, l'ensemble de ces interdits ont un point commun remarquable. Ils veillent à ce que le bruit ou les intrusions intempestives ne dérangent pas les morts, autrefois les déités, dont le domaine n'est momentanément plus nettement distingué de celui des vivants. La mort, en faisant irruption dans le monde des vivants, semble brouiller les limites et ouvrir largement ce dernier sur l'au-delà et ses dangers potentiels. Une séparation rigoureuse doit donc être mise en place, séparation qu'assurent les interdits de deuil. Si nous prêtons maintenant attention à l'organisation générale des cérémonies funéraires, différents types de traitements rituels du mort interviennent. En premier lieu, on peut constater que des rites catholiques prennent en charge le destin de l'âme du défunt. Ces rites catholiques, ils consistent dans la bénédiction du défunt, dans la bénédiction de la sépulture. La sépulture est bénie avant que le défunt y soit déposé. Dans les nombreuses prières lors de la veillée funèbre, lors de la mise en terre, lors du rosaire, de la retraite des femmes dans la maison, et à l'occasion des cérémonies de Toussaint aussi. Toujours au bénéfice de l'âme du mort, il y a ces enveloppes appelées SILA, ces enveloppes de billets de banque, qui sont présentées à la famille du mort et qui sont présentées comme étant une contribution numéraire pour des messes commémoratives qui doivent être dites pour le salut de l'âme du mort et dont chacun trouve une contrepartie exacte en viande de porc le jour de la grande distribution de vivres. Ces rites catholiques et ces pratiques se sont ajoutés à des rites très anciens dont la cérémonie du kava était autrefois le moment clé. Donc je vous ai dit, la cérémonie du kava, c'est une distribution formelle d'une boisson qui est préparée à partir de la racine d'un poivrier, Piper metisticum. Il apparaît que lors des funérailles, les relations sociales font l'objet d'un traitement particulier par le biais de l'organisation de cette cérémonie. Notamment pour le kava final, parce qu'il peut y avoir un kava le jour même de l'enterrement. À Wallis, une distribution de kava marque tous les passages du cycle de vie. Pour le baptême, pour la première communion, pour la circoncision des garçons, pour le mariage, les investitures, et pour donc les funérailles. Lors des funérailles, le kava marque encore un passage que le mort présidait autrefois en personne, une dernière fois. Avant même son inhumation, il était assis à sa place habituelle et on versait devant lui la coupe de kava qu'il ne pouvait plus boire, ou représenté par une place vide devant laquelle sa coupe était vidée. Ce rite de passage, plus ou moins retardé, parfois répété, plusieurs fois à intervalles réguliers, marquait le nouveau statut du mort, un statut rehaussé, qu'il rejoigne les ancêtres bienveillants ou qu'il devienne une déité secondaire, après avoir pris possession d'un des participants de la cérémonie, lors de la cérémonie, et donné ainsi la preuve de sa nouvelle position et de ses bonnes dispositions envers les vivants. La cérémonie du kava final fermait ainsi la période liminaire, période de marge rendue dangereuse pour les vivants par le brouillage des limites entre les différents domaines, lourdes d'interdits et d'incertitudes. À cette occasion, une nouvelle place était donc assignée aux morts, et la société des vivants se réorganisait dans une nouvelle configuration. Le destin post-mortem du défunt parti pour le domaine de la nuit, c'est ainsi que l'on nommait le domaine des morts, nuit avec, là il faut dans ce cas le comprendre avec un N majuscule, domaine réservé aux ancêtres et aux déités, était reconnu et souligné. Cette cérémonie marquait ainsi l'ultime passage du défunt et son accession à un statut supérieur dans le domaine de l'au-delà, ou domaine dit de la nuit, hein, pouli en wallisien. Nuit noire. Avec la christianisation de la population et l'adoption de représentations occidentales concernant la mort, on aurait pu penser que cette cérémonie disparaîtrait des rites funéraires ou tout au moins perdrait son importance. Cela n'est pas le cas et désormais, un prêtre assiste à la cérémonie du Kava qui est présentée comme l'adieu des vivants à l'âme qui se rend auprès de Dieu. Toutefois, l'importance réelle de cette cérémonie ne réside pas dans ces adieux qui sont aussi faits solennellement le jour de l'inhumation. Il s'agit ici d'assurer le passage du mort envers une nouvelle forme d'existence. Il devient un ancêtre dont l'âme est partie vers Dieu. Mais il s'agit également et surtout de réaménager les relations sociales que le décès perturbe et désorganise. Dans cette perspective, la cérémonie finale présente donc un autre aspect. Un décès entraîne le bouleversement des relations sociales à l'échelle de la communauté villageoise et au-delà. Chaque Wallisien est au centre d'un réseau vaste et dense de relations sociales qui se mobilise tout au long de sa vie, à l'occasion des rites le concernant, tout comme lui-même et ses parents participent aux cérémonies organisées par et autour des membres de ce même réseau. Il est clair que l'importance en nombre et en qualité des relations concernées varie selon le statut de la personne, son prestige, son âge, éventuellement son sexe, sa fonction. Or, lors des funérailles, ces relations sont manifestées et exprimées plus encore qu'en toute autre occasion, de façon spectaculaire par l'afflux plus ou moins volumineux de prestations qui convergent vers la maison du défunt. Ces biens cérémoniels vont ainsi, à l'occasion des lamentations, mais aussi lors des contre-prestations, soit à la fin du rosaire, soit lors de la grande cérémonie du Kava qui vient clore les rites funéraires. Donc ces biens cérémoniels vont représenter en quelque sorte les relations qui faisaient du mort ce qu'il était de son vivant. Avant d'être dispersés, hein, ce sont des biens cérémoniels qui sont rassemblés, hein, montrés, puis dispersés et recomposés autour d'autres personnes. Tout comme les relations du mort vont se réaménager après son décès. Lors des funérailles, chacun se présente avec des biens de valeur pour recevoir une prestation en vivres lors de la cérémonie où finalement se résolvent les relations qui ont fait l'identité sociale du mort dans le domaine propre au vivant. Cet aspect des cérémonies funéraires et des échanges cérémoniels qui les accompagnent est capital à plus d'un titre. On l'a vu, la cérémonie finale réexamine la place du mort dans l'ensemble de la communauté, son changement d'état étant ce jour-là signalé devant toute la société, et j'entends par là les morts et les vivants, hein, les vivants sont rassemblés pour la cérémonie du Kava, mais les morts sont présents. Donc, son changement d'état étant ce jour-là signalé devant toute la société, et les relations dont il était le nœud énumérées avant de trouver un nouvel agencement. Mais ce traitement des relations de l'être social du mort met en évidence une caractéristique particulière de la personne humaine telle qu'elle est définie, pas seulement à Wallis, mais dans la région. Et cette caractéristique a été soulignée par différents ethnologues qui ont travaillé en Mélanésie, je pense par exemple à Lennart, à Daniel de Copé. Et dans le cas de Wallis, c'est, à ma connaissance, la première société polynésienne où on a pu mettre en évidence cette caractéristique concernant les représentations de la personne humaine. Dans ces sociétés, en effet, la conception de la personne s'écarte radicalement de celle développée chez nous en Occident, en ce que les substances ne sont pas significatives en elles-mêmes. La personne, vivante comme morte, tout comme d'ailleurs les anciennes déités et dans une certaine mesure êtres et choses qui remplissent le monde, sont des entités qui trouvent leur origine et leur signification dans les relations qui les constituent. Ce sont des êtres relationnels et non pas des êtres substantiels. Dans cette perspective, ce que nous considérons comme des substances, le corps, le sang, des sécrétions par exemple, n'ont de sens autre à Wallis que celui de manifester de façon propre à ce domaine-ci, le domaine des vivants, des relations trouvant d'autres supports, la terre, les pierres, la monnaie, hein, dans certains cas, une fois cessant la forme d'existence spécifique hein, à ces derniers, c'est-à-dire aux vivants. Ce qui est donc en jeu ici, c'est la manifestation de relations constitutives de la personne et significatives à un certain niveau de la réalité, des relations donnant aux hommes une forme d'existence spécifique dans la vie comme dans la mort. Il faut ici considérer que les relations en question existent en vertu de leur étendue et de leur nombre. La profondeur généalogique des ancêtres à partir desquels sont reconnues les relations de parenté, par exemple. Le nombre des maillons de mariage à travers lesquels sont reconnues des relations d'affinité. Dépendent du statut personnel de la personne, de son prestige, de l'importance que la communauté lui accorde. Inversement, la naissance assigne à chacun un statut personnel, aristocratique ou roturier en l'occurrence, qui est travaillé durant la vie sans jamais être remis en question. De sorte que les relations constituant les personnes de haut statut sont à la fois plus nombreuses et plus prestigieuses que celles de bas statut. Il est révélateur à cet égard que pour les roturiers, la cérémonie finale est bien souvent purement omise, les relations constitutives basées sur le statut et le prestige n'étant pas significatives en ce qui les concerne. Outre l'étude des rites funéraires auxquels nous nous bornerons ici, une étude attentive des différents rites de passage du cycle de vie, des échanges cérémoniels et des représentations qui leur sont relatives, a montré que les relations dont il est ici question, correspondent au principe que les Wallisiens ont nommé de tout temps l'Aouma Alié, c'est-à-dire littéralement ce qui est plat, étendu, sans accident. Or, ce terme l'Aouma Alié désigne de nos jours l'âme, hein, dans le contexte chrétien. Il est clair que les deux principes diffèrent, tout au moins de notre point de vue. Mais pour les Wallisiens, la notion d'âme telle qu'elle fut importée et diffusée par les missionnaires recoupe et englobe la notion vernaculaire de l'Aouma Alié. L'âme chrétienne se construit et se réalise dans la relation à Dieu, tout comme autrefois le principe l'Aouma Alié s'établissait en relation aux déités et aux ancêtres les plus prestigieux, ce qui déterminait pour bonne part le statut personnel et le destin post-mortem de la personne. La relation aux ancêtres, au lieu d'être subordonnée aux relations mises en place avec les déités, est désormais subordonnée à la relation personnelle que chacun entretient avec Dieu. Or, comme toujours, cette relation doit être plate, lisse, étendue, sans accident, là où m'a allié. Et là, on retrouve le même principe. Et on dit par exemple des péchés qu'il déchire, mahae, qu'ils abîment et déchirent l'âme, qu'il lèse cette relation à Dieu et qu'il l'endommage. Le fait que la cérémonie du kava s'accompagne dorénavant d'une bénédiction catholique entraîne toutefois un changement profond de signification. Les rites catholiques opèrent en effet une disjonction dans le traitement de la personne, là où il n'en existait pas auparavant. Autrefois, en effet, les relations du mort étaient mises en ordre à l'intérieur d'un monde où vivants, morts et déités cohabitaient, certes dans des domaines spécifiques et plus ou moins séparés, mais contigus. De nos jours, en revanche, l'âme est prise en charge lors des rites catholiques pour être présentée à Dieu transcendant qui subordonne toute relation à l'au-delà. Alors, troisième aspect des rites funéraires, je vous propose d'avancer dans l'étude des rites funéraires afin d'y repérer une autre série de rites qui prennent particulièrement en charge, cette fois-ci, la dépouille. Il s'agit de la toilette funéraire, des soins que l'on porte à l'enveloppe. Le défunt n'est jamais, à Wallis, un défunt n'est jamais inhumé dans une bière. On n'enferme jamais un mort, il faut qu'il puisse se libérer et sortir. Donc il est simplement empaqueté dans des nattes et un grand tissu d'écorce dont les extrémités sont repliées hein, ligaturer le temps du transport, mais au moment de la mise en terre, on défait les ligatures, justement, hein, pour lui rendre sa liberté. Et on va la sépulture elle-même, hein, l'organisation de la sépulture trouve sa place, hein, dans la prise en charge de la dépouille funéraire du mort. On va donc voir ce qu'il en est à ce sujet. On peut noter d'emblée que le traitement de la dépouille prend en charge non pas une composante corps, mais deux principes. Corps et matière sanglante, ici aussi constitués de relations qui s'actualisent dans différents types de supports. C'est un petit peu compliqué, j'espère que vous me suivez. Le corps n'est pas à Wallis la propriété d'un individu, mais une possession que l'on pourrait qualifier de collective. Le corps, à la constitution duquel parents et proches participent en permanence, nourriture pour sa masse, textile, parfum et cosmétiques pour son enveloppe, est ici encore manifestation et support de relation. Le corps, sinon, désigne aussi bien le corps physique que l'ensemble des processus et des circulations qui ont collaboré à son édification. Par le travail sur le corps, c'est la manifestation d'une existence purement humaine qui est affirmée, manifestation de caractère particulier venant des parents, mais qui sont moins transmis in utero qu'ils ne sont le résultat d'une relation reconnue et suivie, hein, relation qui passe par la nourriture pour ce qui est du père et des paternels, qui passe par le traitement de l'enveloppe, la vêture, pour ce qui est de la mère et des maternels. Le corps manifeste donc la dimension sociale de chaque homme et de façon plus générale la dimension spécifique de chaque être, de chaque chose. Hein, on dit des pirogues, des arbres qu'ils ont un corps aussi. Bref, en ce qui concerne les vivants, le corps lui-même constitué de relations est le support des autres types de relations qui viennent s'y inscrire tout au long de la vie, le transformer et le modeler. Or, en perdant la vie, les morts ne perdent pas leur corps. Si le corps vivant se décompose pour ne devenir qu'un tas d'os, les morts sont dotés d'un corps approprié à leur état. Nous avons vu qu'après le décès, reste quelque chose du mort auprès des vivants. En fait, cette présence faite d'un lien, d'une relation entre un mort, sa terre et ses descendants, s'actualise dans la sépulture qui devient, après le décès, un corps de substitution, ce que les Wallisiens appellent un corps mort, synomaté. Corps mort, c'est la traduction littérale de synomaté. Ce corps mort se compose, tout comme le corps vivant, d'une enveloppe et d'une ossature, mais réalisé cette fois à base des minéraux qui reçoivent et contiennent les eaux desséchées. C'est ce corps minéral, fait de dalles de corail, de cailloutis, de sable, aujourd'hui un caveau en béton, qui assure aux morts une résidence auprès des vivants et qui leur permet une forme d'existence spécifique à défaut de la masse corporelle qui leur avait donné une réalité, une autre forme de réalité, hein, et d'existence de leur vivant. Ainsi, les morts résident-ils auprès des vivants dont ils protègent les intérêts et qu'ils gratifient d'une assistance bienveillante. Mais cette résidence, ce corps mort, tout support minéral qu'il soit, doit être compris là aussi en termes de relation. Relation à la terre dont le mort prend en charge la prospérité, relation aux vivants qui cohabitent et qui cultivent cette même terre. Ainsi, si la résidence est partagée entre ancêtres et descendants, ce n'est pas tant en vertu de la proximité spatiale de leur installation respective, la maison pour les vivants, la tombe pour les morts, qu'en vertu de relations ici encore partagées avec la terre qui les supporte. Si un ancêtre et ses descendants partagent nécessairement des relations de type âme, du fait de la transmission du statut, d'une généalogie commune de référence, de réseaux cérémoniels qui se recouvrent et se prolongent, ils partagent également des relations de type sang, hein, qui sont des relations à la terre, et que viennent nourrir, hein, les morts en se décomposant là dans leur sépulture. Alors, je ne vais pas développer ici ce qui concerne les relations de type sang, c'est quelque chose de compliqué, mais il faut savoir que relations de type âme et relations de type sang ne s'équivalent pas. Elles sont complémentaires. Tandis que les unes s'établissent en référence au statut et au prestige, hein, donc les relations de type âme, ce qui revient à dire que ces relations sont avant tout définies comme masculines et paternelles. Les relations de type sang s'établissent en référence à la résidence, hein, résidence partagée par les morts et les vivants. Le sang des morts, hein, venant constituer la terre, hein, que l'on cultive, et venant rejoindre là le sang des femmes. Cette caractéristique est fondamentale dans une société où, idéalement, seuls les hommes circulent, tandis que les femmes naissent, ont leurs règles, sont déflorées, accouchent, puis sont enterrées sur la terre de leur propre mère. Pratiques et représentations faisant apparaître ici les relations de type sang comme des relations féminines et maternelles, hein, contrepartie et en complémentarité avec les relations de type âme. On le voit ici encore, l'analyse ajoute un degré supplémentaire de complexité à la classification que les Wallisiens opèrent entre les différentes sortes d'êtres et de choses, les différentes entités qui animent la société, les vivants, les morts, autrefois les déités, les statuts qui différencient entre eux aristocrates et roturiers, la résidence qui différencie hommes et femmes. Chaque chose, chaque être, à Wallis, est défini par un réseau de relations croisées qui, selon leurs caractéristiques principales, corps, sang, âme, mais aussi suivant leur agencement spécifique, lui assigne une place dans le cosmos. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je voudrais citer ce que m'avait dit un vieil homme qui s'appelait Aliki Lufaou, particulièrement connu et respecté à Wallis pour l'étendue de son savoir, et qui me répondit un jour que je l'interrogeais au détour d'une conversation sur ce qui, à son avis, définissait les Wallisiens, hein, dans le contraste avec ce que les Wallisiens appellent les Papalangi, les Occidentaux. À Uvea, ce sont trois choses qui s'assemblent dans l'homme. C'est notre façon de voir, la compréhension que nous en avons. Dans un seul homme, il y a son âme, la Oumalié, avec son corps sino, et puis sa matière sanglante, Toto Kakano, que j'ai simplifié ici sous le terme de sang. La dissociation qu'il avait faite entre corps et matière sanglante m'avait surprise sur le moment, mais sans éveiller particulièrement mon intérêt, prise que j'étais encore à cette époque, dans l'idée que corps et sang n'étaient que matière et qu'une telle distinction ne pouvait être que secondaire au regard de l'opposition première, pour moi culturellement déterminée, entre corps et âme. Il fallut beaucoup de temps et une analyse minutieuse du matériel ramené du terrain, et particulièrement des notes concernant les rites funéraires, pour comprendre que cette classification se différenciait radicalement de la nôtre. Elle s'en différenciait d'abord parce qu'elle était ternaire, opposant âme et sang à travers des ensembles de représentations antagonistes et complémentaires, le corps assurant la permanence de l'existence des êtres sous une forme appropriée, mais aussi différente parce que les oppositions qui organisaient cette classification n'étaient pas compréhensibles si l'on ne parvenait à se déprendre de nos propres représentations pour saisir l'extrême complexité de l'existence qui se décline en une large variété de possibilités selon l'agencement que peuvent prendre les trois types de relations fondamentales, donc sang, âme et corps, dans cette société du Pacifique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre compréhension.